À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri.
Et ce que notre invité est en haut de l'affiche aujourd'hui, on va le découvrir ensemble, on va lui demander. Vincent Klingbeil, bonjour.
Salut Thomas.
Je suis ravi de te retrouver à ce micro pour parler de la session de ta première, même pas première entreprise, Ametix, au groupe d'Ocapost. Et pour en parler tous ensemble, on retrouve mon fidèle compère Renaud Granier. Salut Renaud.
Salut Thomas.
Salut Renaud.
Je remercie au passage notre partenaire Neuflis OBC, qui aura une question pour toi d'ailleurs pendant cet épisode. Et je remercie les auditeurs déjà nombreux qui nous font des retours de dingue. Je pense que vos aventures n'y sont pas pour rien, la musique non plus. Alors je vais commencer avec cette première question pour faire connaissance. Tu te voyais en haut de l'affiche. Tu espérais être en haut de l'affiche.
Alors je ne sais pas si c'était en haut de l'affiche, mais en tout cas, ce qui est certain, c'était que j'ai toujours été très déterminé, ambitieux, que j'avais beaucoup d'énergie. Ametix, ce n'était pas ma première boîte, puisque j'ai lancé d'autres sociétés avant. Moi, je suis même en fait un ancien avocat d'affaires reconverti dans le web. J'ai connu des échecs, et c'est vrai que dans ces périodes où j'ai des sociétés qui n'ont pas fonctionné, sur lesquelles je me suis vraiment planté, je trouvais que c'était injuste parce que j'avais beaucoup travaillé, j'avais mis beaucoup d'énergie, j'étais vraiment déterminé et je me disais que j'avais trop semé et que je récoltais pas. Et en fait, j'ai compris quelques années plus tard que sans ces expériences difficiles, j'aurais jamais réussi les aventures d'après.
Le temps qu'on passe, l'énergie qu'on passe sur un projet n'est pas proportionnelle à sa réussite.
Exactement. Et parfois, on peut trouver ça injuste, mais on comprend plus tard que, en fait, j'aurais jamais réussi Ametix ou j'aurais jamais réussi European Digital Group si j'avais pas échoué dans quelques startups ou si j'avais pas eu cette expérience d'avocat avant. Parce que c'est ça qui m'a aussi donné cette rage et cette envie de réussir.
Ce que je vous propose, c'est de découvrir cette fabuleuse aventure de la session d'Ametix donc à DocaPost. On va se plonger dans le jour J, le jour de la signature, et on demande pour les auditeurs qui découvrent Cash Out à nos invités de choisir des musiques qui reflètent ces moments un peu clés de la session. Pour parler de ce jour J, celui de la signature, tu as choisi... Ça fait peur.
C'est stressant.
On reconnaît la musique des Dents de la Mer. Il y a cette appréhension, l'idée qu'on va peut-être se faire manger, absorber, de ne pas savoir exactement dans quelle eau on va plonger.
Toi, tu es dans quel état d'esprit le jour J, le jour de la signature?
Alors, c'était en avril 2017, donc c'était il y a presque 4 ans maintenant, il y a plus de 4 ans qu'on a revendu Ametix, c'est passé très vite. C'est vrai que j'avais le track. J'avais le track parce que j'avais vraiment mis mes tripes dans cette société. J'avais énormément d'affect avec tous mes collaborateurs qui, pour certains, étaient devenus des amis. Et je me devais de les aider. On les avait vraiment élevés. Ils étaient tous montés en compétences. Ils avaient évolué avec la société. On est passé de 0 à 500 personnes en 5 ans, en 6 ans à Ametix. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de collaborateurs qui nous avaient suivis, qu'on avait emmenés avec nous. Et donc, j'avais une grosse responsabilité. Et donc j'avais le track parce que je voulais absolument que l'aventure continue et qu'ils continuent à évoluer, et donc je leur devais beaucoup et c'est pour ça que j'avais le track. J'avais le track aussi de l'inconnu, d'aller dans un grand groupe comme ça. Nous on était 500 et on rentre dans un groupe de 220 000 personnes qui fait 28 milliards de chiffre d'affaires, qui est présent dans de nombreux métiers, nombreuses verticales, et puis on a une filiale d'Ocapost qui aussi est énorme, qui faisait 6 000, 7 000 personnes. Donc oui, j'avais le track.
Est-ce que tu pourrais nous raconter ta journée, si tu t'en rappelles, ton réveil, la signature était à quelle heure, comment ça s'est passé?
Il faut savoir que moi j'ai une passion, J'ai une grosse passion, c'est que je suis collectionneur de stylos, parce que ma maman avait des magasins de stylos de collection, donc depuis que je suis tout petit, je suis un passionné de stylos.
Donc d'abord, tu choisis le stylo avec
exactement.
Lequel tu vas
donc,
signer.
Exactement, donc j'avais choisi le stylo avec lequel je voulais signer. D'ailleurs, je suis un petit peu triste parce que maintenant, je rachète pas mal de boîtes avec European Digital Group, et il y a beaucoup de signatures électroniques, donc je peux plus sortir mes stylos, et donc ça m'embête parce que j'aime bien avoir un stylo souvenir pour chaque signature. Donc à chaque fois j'essaye de trouver un truc à signer quand même pour pouvoir utiliser mon stylo, mais là maintenant c'est vraiment la signature électronique que j'utilise, et j'utilise les services de signature électronique de DocaPost parce que je suis très corporate, donc je suis resté très fidèle à DocaPost.
Donc tu choisis
donc, j'ai choisi
stylo.
Le JFK, donc c'est un stylo, une édition limitée de chez Montblanc, le John Fitzgerald Kennedy. Voilà, j'ai choisi ce stylo.
La signature est prévue à quelle heure sur cette
c'était le matin
journée
c'était le matin. Voilà, donc non, ça c'est ouais, j'avais une appréhension parce que je me disais là c'est vraiment une étape, on va vers l'inconnu. D'un côté je vais encaisser quand même encaisser une partie du prix, donc
si
ça
je dis pas de bêtises, vous avez vendu entre 25 et 30 millions.
Alors moi j'ai pas le droit de communiquer le montant.
En tout cas c'est
montant.
Ce que je
j'ai pas
entendu,
le droit de ni de confirmer ni d'infirmer. L'idée c'est on devait pas trop.
Bon, c'est pas qu'une affaire de montant de toute façon. Le sujet de l'émission c'est de savoir ce qui se passe.
De toute façon la richesse est dans le cœur.
Et du coup, alors autour de la table, tu as tes associés parce que tu étais associé.
Exactement.
Aussi.
Vous étiez trois.
Exactement. Donc
avec Stéphane
et Patrick Benan. Et donc oui, on était trois. Après, il y a les avocats, il y a le directeur M&A du groupe La Poste, celui de DocaPost, le président de DocaPost. Il y a le DG qui était là aussi, voilà, plein de personnes. Alors c'est vrai que toutes ces personnes en fait elles m'intimidaient, et puis je me disais comment ça va se passer avec eux, et en fait maintenant on est 4 ans après, la plupart de ces personnes sont devenues des amis, je les revois toujours, et en fait c'est vrai que j'avais très très peur, et j'arrivais pas bien à évaluer la personnalité de ces personnes, comment ça allait fitter et tout ça, et en fait là 4 ans après on
est
devenus proches.
On va revenir sur la prévention, on va aussi revenir sur l'avant pour comprendre comment ces relations se nouent dans les négociations notamment. Il y a toujours cette idée que jusqu'à ce que la signature soit apposée, jusqu'à à ce que les fonds soient sur le compte. Il y a toujours ce doute de est-ce que ça va se faire. Là, vous y allez sans ce doute-là en tête, ou ça reste quelque chose qui...
Alors là, j'ai une anecdote qui est vraiment... j'ai une anecdote qui est quand même atypique dans un deal, parce qu'il se trouve que maintenant dans mon aventure actuelle dans European Digital Group, j'ai racheté 10 sociétés en 2 ans, donc maintenant je suis devenu un expert M&A, et c'est vrai que
tu vas nous envoyer des invités
avec plaisir, et donc tu vas devenir un expert M&A, et c'est vrai que rétrospectivement maintenant que j'ai fait plein d'autres deals, je me dis ah j'aurais dû faire comme ça dans mon deal. À chaque fois ça revient, et donc l'anecdote c'est quand même quelque chose de très atypique qui nous est arrivé, c'est qu'on avait 15 offres de rachat, donc notre boîte faisait 100% de croissance par an, une bonne rentabilité et tout. On a été très approchés. Donc, on avait des fonds private equity, on avait des industriels, tout le monde avait fait une... Et il a fallu choisir. On n'était pas totalement alignés, tous les associés. Certains voulaient vendre, d'autres voulaient préférer faire un LBO secondaire et continuer l'aventure. Mais finalement, on a décidé, à l'unanimité, finalement, de partir sur l'offre de La Poste. Donc, on appelle les 14 autres et on leur dit, on est en exclusivité avec La Poste. Ça y est, on est parti. Et donc, on avait signé à l'époque avec la directrice, enfin, la présidente de, enfin, la LOI, on l'avait signé avec la présidente de DocaPost. Et il commence les audits. Et là, au bout de 1 mois d'audit, les audits devaient durer 2 mois, au bout de 1 mois, La Poste nous appelle et nous disent, en fait, il y a un changement de président chez DocaPost. Donc, la présidente que vous avez rencontrée, elle reste dans le groupe La Poste, mais elle prend un autre poste. Et il y a un nouveau président, il veut vous rencontrer, il veut dîner avec vous la semaine prochaine. Et donc là, je me suis dit, mince, parce que là, je me suis dit, là, on doit repitcher. Et je me suis dit, en fait, on remet notre titre en jeu. Là, on a dit non aux 14 autres. Donc, si jamais on revient les voir, on leur dit oui, finalement c'est ok. On n'est plus du tout en position de force de négo. Ça fait vraiment, c'est compliqué de revenir vers les autres. Et en fait, l'offre qu'on a sur laquelle on a une exclusivité, elle est remise en jeu sur un dîner. Donc ça, c'était quand même la pression. Donc là, ce dîner, on avait décidé, il fallait qu'on soit au top. Donc ce dîner, c'était, je me rappelle. à Levallois dans le restaurant Le Petit Poussé. Et donc, on a dîné avec toute son équipe et le président. Et là, on a essayé d'être voilà, le plus naturel possible, il nous a posé plein de questions, on a échangé. Et après, voilà, il a fait un très bon feedback et il a décidé de continuer le process. Mais comme on est devenu très proche après, je lui ai dit, mais t'aurais pu, si j'avais pas eu le fit, on n'aurait pas fait le deal. Et donc, du coup, tout s'est joué après sur ce deal. Mais c'est fou qu'il y ait un changement de président
en cours
dans les 2 mois. Un audit, ça dure max 2 mois, 2-3 mois. Et en plein dans cette période, changement de président. Et donc, on remet notre titre au jeu alors qu'on a dit non aux autres. Donc, c'était quand même c'était stressant.
Ouais, une montée de pression.
T'as fait une petite ellipse. Mais du coup, effectivement, je te propose de revenir sur toute cette phase de négo, les premières rencontres avec le repreneur, et pour parler de ce moment-là, tu as choisi. Du coup, c'était ça l'humeur des associés, dragués de partout.
Alors c'est vrai qu'on avait été surpris par le nombre de fonds et le nombre d'industriels qui nous ont approchés et qui nous ont envoyé des LOI.
Vous attendiez donc, à ça?
Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. J'avais aucune idée de... je sais qu'on était une belle société, qu'on faisait une belle croissance, qu'on avait beaucoup d'énergie, qu'on faisait une bonne renta, que ça se ressentait qu'on avait beaucoup d'énergie.
Vous aviez eu des approches les premières années déjà au téléphone, etc.
Ouais, on n'allait jamais plus loin, on n'était pas ouvert. Et c'est vrai que quand on a été ouvert, il y a eu énormément d'offres. Alors là, j'ai plein d'anecdotes.
On veut des anecdotes.
Bah, il y a eu plein d'anecdotes. C'est que il y a eu un process, donc une compète. Et c'est vrai que là. Je sais pas, j'avais eu la naissance de mon deuxième fils, donc à cette époque, et j'ai reçu plein de cadeaux de fonds d'investissement qui m'offraient des cadeaux pour la naissance de mon fils. On n'arrêtait pas les déjeuners, ils nous voyaient une fois, deux fois, donc on était vraiment très 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 approchés.
Et quel rôle joue la banque d'affaires justement pour filtrer, choisir avec vous aussi humainement de débriefing?
Ouais, bien sûr, le banquier il organise le process.
Oui, là tu l'as déjà la banque d'affaires.
Ouais, on a déjà la banque d'affaires, il organise le process, mais après voilà, nous on doit voir avec qui on a le meilleur fit, et c'est vrai que ils sont tous super sympas. Moi j'avais le fit avec tout le monde en fait. Je m'entendais bien avec tous, je les trouvais tous intéressants, ils avaient chacun leur qualité, donc c'était très dur de décider.
Et du coup, si t'as le fit avec chacun, c'est quoi qui fait le choix? C'est le montant de la proposition, c'est la possibilité de développement et pour la boîte et pour les collabs, c'est quoi qui fait le choix?
Bah, c'est un mix de tout ça, et si on a choisi DocaPost, c'est en grande partie parce qu'on voyait les synergies avec Ametix, et ça s'est confirmé par la suite, puisque ça pesait, une fois qu'on a intégré le groupe, une grosse partie de notre chiffre d'affaires venait du groupe La Poste. Et alors pour une autre anecdote, c'est que dans le cadre de ce process, il y avait le fonds de private equity Montefiore, avec qui finalement on n'a pas signé puisqu'on a été avec le groupe La Poste. Et donc 3 ans après, je me suis associé avec eux sur mon nouveau projet European Digital Group. Donc moi j'adorais ce fonds qui a une super réputation, qui a un des fonds de private equity qui a les meilleures perfs depuis 20 ans. Donc moi j'adorais ces entrepreneurs. Et donc du coup c'est fou parce que j'ai quand même réussi à faire un projet avec eux, mais quelques années après.
Et on parle souvent d'ADN commun. De prime abord, DocaPost et Ametix, effectivement, il n'y a pas forcément d'ADN commun, donc ça n'a pas été le critère, la déterminant.
Je pense que c'est une histoire d'homme, surtout quand on a rencontré Olivier Vallée, le président de DocaPost, qui est vraiment un entrepreneur, un dirigeant formidable. On a eu vraiment un super fit.
À ce fameux dîner, vous aussi, tous les trois, vous attendez d'être séduits par ce nouveau président?
Bah oui, on sait que, bon, on a dit non aux autres, mais on sait quand même que si on revient avec tous les cadeaux qu'ils avaient envoyés, tout ça, si on revient, on sait qu'on a quand même, qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Donc, du coup, nous aussi, on veut avoir confirmation du fait de savoir si on a envie de se projeter. Donc, c'était dans les deux sens. C'était dans les deux sens. Et ouais, on a tout de suite été séduits. Et je pense dans ces moments-là, et d'ailleurs, dans dans beaucoup de moments de la vie d'entrepreneur, faire confiance à son instinct. Et moi, pareil, mon instinct, c'est vraiment quelque chose de très important dans ma prise de décision. Et c'est vrai que quand on a vu Olivier Vallée, j'ai senti qu'il allait avoir un bon fit, que ça allait bien se passer, que c'était quelqu'un d'intègre, que c'était quelqu'un de très fort, qui allait beaucoup nous apporter. Alors l'instinct, c'est pas une science exacte, on peut se tromper.
Mais là,
sinon, ça serait extraordinaire. Mais là, on s'est pas trompé. C'était vraiment et vraiment la période d'Ocapos a vraiment été formidable, beaucoup de bienveillance jamais j'aurais pu imaginer, quand on parlait tout à l'heure du jour du closing, que toutes ces personnes qui étaient en face, qui étaient des inconnus pour moi, qui me faisaient peur, ben maintenant, je suis 4 ans après et ce sont tous des amis, je suis toujours en contact avec eux, on se voit tout le temps.
Tu parles d'instinct, tu étais associé, donc il y a peut-être eu aussi sur le choix du repreneur des différences de point de vue.
Ouais, bien sûr, on a hésité, on a beaucoup hésité parce qu'il y avait beaucoup d'offres et puis chacun avait ses préférés et après on a décidé à l'unanimité de partir
avec le groupe. Vous avez réussi à trouver un consensus.
On n'y va pas avec un des trois qui dit non, celui-là je le sens pas.
À un moment, il faut prendre une décision. Et donc, du coup, on fait un vote. Et donc, du coup...
2+1.
Voilà, s'il y a 2+1, il faut y aller.
C'est l'avantage d'être 3.
Exactement.
Je reste sur cette notion de regard d'associé. Si on choisit pas forcément potentiellement la même offre, c'est peut-être qu'on n'en attend pas la même chose de cette vente. Comment ça se traduit, ces discussions?
En fait, chacun a ses propres aspirations. Parfois aussi, entre associés, on peut ne pas avoir le même âge, on peut avoir la même fortune personnelle,
phases de vie, bien sûr.
Et puis les mêmes envies. Donc après, chacun a apporté ses arguments, et puis après, on a pris une décision ensemble, et qui s'est avérée être une bonne décision, parce que ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup appris au sein du groupe La Poste, et que ça s'est très bien passé.
Au moment où vous partez sur la banque DAF, c'est un choix a priori délibéré de se dire on va mettre Amétix en vente.
Non, pas du
non.
tout.
Pas Comment du ça
tout.
Se
en fait,
fait
on n'était pas du tout vendeur, mais c'était alors il y a les fonds qui nous avaient approché de ça, mais dans l'étape d'avant, il y avait les banquiers d'affaires qui nous avaient approché et qui nous disaient votre boîte est exceptionnelle, il faut aller voir le marché, et tout ça. On n'était pas trop vendeur et donc on avait donné un mandat non exclusif parce que le banquier nous avait convaincu, mais en se disant ça se trouve il y aura rien et de toute façon on est très bien, on continue, on verra. Et puis après les LOI commencent à arriver de partout et des entretiens, je suis pitché 3 fois par jour. C'est une période pour l'entrepreneur qui est très stressante et très intense, le process, surtout quand il y a beaucoup d'acteurs, puisqu'on doit pitcher sa boîte. Quand on a 15 interlocuteurs, tu dois tous les voir 2, 3, 4, 5 fois parfois, ils t'appellent tous, t'as beaucoup de rendez-vous
et du coup c'est du temps que t'as pas sur ta boîte.
Exactement,
plus, hein,
moi je pense que dans un deal tu peux facilement perdre 70% de ton temps sur le deal pendant le process et donc du coup
tant
t'es moins sur
ta boîte.
Tant
que c'est pas 70% du chiffre d'affaires, ça va.
Non, ça va. Donc c'est pour ça que quand t'es plusieurs associés, c'est bien de se répartir les rôles.
Parce que vous pitchez du coup chacun votre tour, jamais tous les trois en même
non,
temps.
Non, souvent tous les trois.
Souvent
ensemble et parfois il y en avait deux en même temps, donc on se splittait.
Et les équipes internes étaient au courant que vous n'étiez pas là 70% du temps, du coup ils se posaient des questions?
Alors c'était pas les trois, 70% on se répartissait, mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Déjà, on est tenu à la confidentialité pendant les process. Donc, du coup, normalement, t'annonces. Il y a un moment où il faut annoncer et prévenir les salariés. C'est à ce moment-là qu'on les a prévenus et ça a été très bien pris, très bien pris.
Ok.
Il y a un sujet. On le dit souvent. On n'est jamais assez préparé et techniquement et émotionnellement avant de sa boîte. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'on fait ce format. Sur la partie plus technique et notamment les clauses, est-ce que ce soit sur les autres offres que vous avez pu avoir ou sur celle avec Docapos, il y avait des sujets qui ont été compliqués à négocier?
Alors moi j'ai la chance, je suis un ancien avocat d'affaires, j'ai quand même encore quelques restes et quelques réflexes. Néanmoins, je le dis pas trop parce qu'après dans la négo, après il va se méfier si je dis tout de suite que je suis avocat, donc je le dis pas trop. Mais oui, bien sûr, il y a toujours plein de sujets, il y a beaucoup de négo. Après, on est accompagné par un super avocat qui nous a brillamment accompagné. Donc,
t'as vécu les deux côtés finalement, parce qu'aujourd'hui tu rachètes des boîtes aussi, donc tu as cet œil de l'entrepreneur qui vend sa boîte, tu as cet œil de l'entrepreneur qui en rachète. pour les uns comme pour les autres, quel conseil tu donnerais, sur quoi il faut être attentif pour le coup de part et d'autre, parce que c'est un mariage, c'est un deal, et donc chacun a ses intérêts, ce qui se comprend.
Alors quand c'est la première fois, il faut être bien accompagné, il faut avoir un très bon banquier d'affaires, un très bon avocat en qui on a confiance. Déjà, quand on a fait ça, on a fait une grosse partie du boulot. Et après, c'est comme dans la gestion de patrimoine post cash out, il faut vite monter en compétences. Il faut vite monter en compétences sur ces sujets. Il faut vite apprendre ce qui est market practice et ce qui ne l'est pas pour pouvoir...
Alors, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas ?
Est-ce que tu aurais des exemples concrets, justement, de certaines clauses sur lesquelles il faut être plus attentif que d'autres ?
Je peux vous citer 20 clauses. Ouais, clause, il y a des choses qui sont de market practice, donc qui ne le sont pas. Donc, tu as les clauses de garantie de passive, les clauses de lever, les clauses de révocation, tu as les clauses d'exclusivité, de non-concurrence. Il peut y avoir, il y a des dizaines et des dizaines de clauses. Nous, on avait aussi un earn-out, on était payé en deux fois. Du coup, il faut bien aussi encadrer ça. Donc, il faut que l'earn-out soit atteignable. Alors, quand je suis côté acheteur, je veux que l'earn-out soit atteignable. Je veux que mes entrepreneurs atteignent leur earn-out, mais je veux pas qu'ils soient trop facilement atteignable, parce que s'il est sur 3 ans et qu'au bout d'un an, ils savent que c'est déjà bon, après, ils n'auront plus l'énergie pendant 2 ans. Donc, il faut faire quelque chose, qui soit, on est à 90% de chance, on sait qu'ils vont y arriver, mais il faut quand même qu'ils se donnent pour y arriver. Donc, il faut un pas trop facile, mais pas trop compliqué non plus, parce que si inversement, au bout d'un an, ils se rendent compte qu'ils sont trop, trop loin, ils vont se dire, c'est bon, de toute façon, c'est sûr que je l'aurai pas, et ils vont se démotiver. Et donc, il y a beaucoup de négo aussi autour de la fixation de ces objectifs. Et donc, il faut pas non plus trop faire rêver l'acquéreur.
Et notamment la capacité à pouvoir mener la stratégie qui amène à ce earn-out.
Exactement. Et nous, dans notre cas, on a réussi à obtenir 100% de l'earn-out. Donc ça, j'en suis très fier. Donc on a mis beaucoup d'énergie et du coup, on a atteint nos objectifs.
Donc vous êtes resté combien de temps concrètement ?
Un peu plus de 2 ans pour ma part. Et ensuite, Patrick, notre associé, est resté 18 mois de plus.
Alors justement, pour parler de ces premiers jours chez votre preneur, c'est sur cette musique qu'on va en parler. Vincent Klingbeil arrive en peignoir chez le Capos, les gants au poing. Tout le monde hache la tête. Ça, c'est l'ambiance.
Ouais, exactement. En fait, on a un président qui vient d'arriver chez Docapost, qui nous a témoigné sa confiance en confirmant une offre qui était déjà engagée. Et donc, on se devait de lui prouver qu'il avait fait le bon choix. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre énormément d'énergie pour faire exploser encore plus cette société pendant cet accompagnement. Donc on lui devait. On le devait aussi aux équipes pour leur montrer qu'on était toujours là et que l'aventure continuait. Et puis aussi, il y avait cet earn-out qu'on voulait apprendre. Nous, nous sommes des compétiteurs. Donc quand on nous dit « t'as un objectif, tu dois atteindre tel objectif pour avoir ton earn-out », nous, on, peu importe le montant, tout ça, on atteint notre objectif. On a mis énormément d'énergie pour y arriver. Et ça, c'était vraiment au-dessus de nos espérances, la façon dont ça s'est passé avec le groupe La Poste. Parce que des vraies synergies, parce qu'ils nous ont intégrés sans nous désintégrer, qu'ils ont été ultra bienveillants, qu'ils nous ont apporté beaucoup de business. Et puis, encore une fois, je le dis, là, on est maintenant, je suis 4 ans après, je suis parti. C'est pas comme si j'étais encore dans le groupe et où je vous dis, c'est extraordinaire parce que c'est parce que mon boss écoute l'émission.
Parce que t'as encore le earn-out.
Exactement, là, j'ai plus d'earn-out, j'ai plus d'intérêt, tout ça. Et je le dis sincèrement, ça a été une aventure exceptionnelle, humainement exceptionnelle. Et je sais pas, je dois avoir peut-être 50 amis dans le groupe La Poste que je vois souvent, dont je prends des nouvelles.
Est-ce que tu parlais
plein de personnes formidables.
D'intégration sans désintégration, les changements opérationnels, parce que votre statut change, vous êtes plus propriétaire de la boîte, vous avez vendu au titre. Alors, ça déjà, comment tu le ressens déjà, ce point-là de plus être propriétaire de...
Alors, c'est pas le fait de plus être propriétaire, c'est le fait de, dans ma boîte, j'étais le patron, donc j'avais la légitimité. Et puis aussi, nos collaborateurs nous connaissaient, donc on avait déjà fait nos preuves, ils avaient confiance en nous, on les avait embarqués. Et là, tu remets ton titre en jeu, et ça se trouve, ça peut moins le faire avec un nouveau partenaire, un nouvel actionnaire. Et donc, il fallait leur prouver qu'on était bon. Mais c'est un peu la même chose quand un top manager change de boîte. Il peut être adoré dans une société et après, quand il arrive dans une autre, ça peut se passer plus ou moins bien. C'est pas parce que t'as été bon dans une société que t'es forcément excellent dans l'autre. Et donc, du coup, on a tout donné et on a réussi à remettre notre titre en jeu et on s'est vraiment... voilà. Et donc, entre le rachat en 2017 et ensuite notre départ en 2019, on a triplé le chiffre d'affaires de la société. Donc voilà, on était ravis.
Je reste sur cette question de posture, parce qu'on parle d'émotionnel. Donc, on sent que tu es un challenger qui aime les objectifs, qui a envie de les atteindre. Mine de rien, pour beaucoup d'entrepreneurs, alors peut-être que ça t'est pas du tout passé à l'esprit, mais il y a un côté, je suis plus complètement chez moi, et parfois c'est des petits détails auxquels on pense pas, qui te font ressentir ça. À aucun moment, t'as eu ce sentiment-là.
Aucun moment. En fait, ça dépend. Je pense que ça dépend des entreprises par qui tu te fais racheter. C'est pour ça qu'il faut bien la choisir quand on a la chance d'avoir plusieurs offres. Et voilà, il faut pas se tromper. C'est très dur, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, l'instinct n'est pas une science exacte.
Ouais. Mais même quand on a qu'une offre, faut bien choisir.
Même quand t'as qu'une offre, tu te dis est-ce que je l'accepte ou est-ce que je l'accepte pas. Surtout quand, dans notre cas, on était une société en hyper croissance et donc on aurait pu continuer notre croissance aussi seul. On avait aussi ce choix-là. Donc voilà. Là, cette fois-ci, on s'est pas trompé, notre instinct a vu juste. Mais voilà, faut être vigilant. Et après aussi, ça peut aussi venir quand ça se passe mal du côté de l'entrepreneur. Nous, on a vraiment joué le jeu, on s'est donné à fond, on était vraiment déterminés, on a travaillé autant, voire même beaucoup plus que ce qu'on faisait avant, parce qu'on voulait prouver qu'ils avaient fait le bon choix. Et donc, c'est sûr que si un entrepreneur, dès qu'il vend et que pendant la période d'accompagnement, il se dit ça y est, maintenant, je vais commencer à réfléchir à mes investissements ou je vais faire que autre chose que de me concentrer sur ma société.
T'as pas du tout réfléchi à tes investissements?
Si, un petit peu. Non, un petit peu, mais
c'était pas, oui,
c'était pas le centre. Mon objectif number one, c'était ma mission number one, d'attendre... c'était d'être sur Ametix.
Un sujet, encore une fois, je comprends que ça s'est très bien passé et c'est important de le dire, parce qu'il y a autant d'aventures et d'entrepreneurs qui se passent bien, qui se passent mal. Quand on arrive dans un grand groupe, il y a toujours cette idée que ça va peut-être devenir un peu plus politique, chose qu'on n'a pas à gérer quand on est son propre patron.
C'est totalement vrai. Mais moi, j'ai adoré la politique. J'ai adoré, en fait, la politique, pour moi, c'est quoi ? C'est j'allais networker dans tout le groupe, déjeuner avec tout le monde, prendre des petits déjeuners avec tout le monde, être sympa. Et tu fais ça une partie de ton temps. Et c'est comme ça qu'il y a plein de business. Et après, il m'appelait, il me disait, tiens, il y a lui qui a tel besoin. Est-ce que tu veux pas l'entrer ? Merci beaucoup. Tiens, moi aussi, je te présente ça. C'est ça, la politique, en fait, c'est juste échanger avec plein de monde, être sympa. Rendre le plus de services possible dans le groupe quand on peut le faire.
Devenir
et après, on reçoit énormément. Et c'est comme ça que le groupe La Poste est devenu un gros client de la société parce que je passais ma vie dans le groupe à networker et puis je demandais toujours à telle personne de m'introduire auprès de telle personne. Et moi, j'avais un gros argument aussi. C'est je disais, mais comme ça, la marge reste dans le groupe quand on travaille avec nous.
Donc générateur du coup, de leads, donc tes commerciaux t'adoraient encore plus qu'avant.
C'est ça. Donc ouais, bien sûr, on ramenait beaucoup beaucoup. Et puis pareil pour les équipes aussi, parce que on a peut-être trop parlé que de moi, mais les équipes pour eux aussi c'était une opportunité d'être dans ce groupe. Donc ils arrivaient dans un groupe de 28 milliards. Derrière, il y avait beaucoup plus d'opportunités business. Il y avait des beaux postes pour évoluer. Ils arrivaient dans un plus gros groupe. Donc c'est ça aussi. Il faut dans le choix de la société, il faut beaucoup penser à ses équipes et se dire est-ce que ça va être bien pour mes équipes. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, on doit, je sais pas, énormément à nos équipes, et c'est pas une victoire des entrepreneurs quand il y a une opération. C'est un collectif et il faut que tout le monde
y gagne.
Exactement.
Moi, ce que je retiens, c'est que ce qui fait la réussite aussi de la synergie, c'est aussi ce travail en interne, quotidien, de passer du temps à nouer en fait ce qui va faire le business commun.
C'est ça. C'est pour ça que moi, la politique, moi, j'adore les gens, j'adore échanger, j'adore partager. Et donc, pour moi, c'était un jeu hein, que d'aller rencontrer tout le temps des top managers du groupe. Moi, c'était un plaisir.
On est dans cette phase, donc pour toi, ça dure 2 ans.
Learn-out, ouais.
Ouais. Donc, t'es resté 2 ans chez Docapost après la revente. Tu m'as dit Patrick.
Oui, pour Patrick, mon associé, il est resté 18 mois de plus.
Et Stéphane.
Et est parti comme moi.
Ok, en même temps. C'est un sujet, ça, au moment où bah, finalement les chemins des associés de toujours. Prend des chemins différents.
Ouais, bien sûr. Alors déjà, je pense que c'était très dur aussi des équipes, parce que moi je mets beaucoup d'affect. Ouais. Donc j'avais beaucoup d'affect pour mes équipes. Donc c'est sûr que ça fait bizarre. J'étais vraiment très triste et ému le jour de mon pot de départ. Donc ça fait quelque chose.
On va y revenir.
Maintenant, quelques années après, je suis toujours en contact avec beaucoup de mes collaborateurs d'Ametix. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est un pot de départ, mais on reste quand même en contact. Mais après, tu les vois plus tous les jours. Il y a des gens que tu voyais tous les jours. Mais après, je refais encore le parallèle avec le top manager. Un top manager qui change de société. Et d'ailleurs, il y a des top managers qui changent tous les 5, 6, 7 ans de boîte. Bah, c'est pareil. T'as mis de l'affect avec tes équipes, avec tous les managers, et puis tu changes, c'est comme ça.
Alors justement, ton pot de départ, le dernier jour chez Ametix, chez Docapost, tu peux nous en parler?
Ah, là, c'était vraiment ultra émouvant. C'était ultra émouvant, j'avais reçu plein de cadeaux.
J'avais pas la musique avec les violons.
Voilà, non, j'avais préparé un petit discours. Moi, le principal message que j'ai voulu faire passer à tous les collaborateurs, c'est de leur dire, il y avait des valeurs chez Ametix. J'espère que vous les avez bien en vous et gardez-les, en fait. et voilà, qu'est-ce que...
Tu te rappelles mot pour mot de ce discours?
Non, pas mot pour mot, mais c'était vraiment de dire, voilà, les valeurs d'Ametix, c'est... Alors même maintenant, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais moi, j'aime bien ce mot quand même, c'est la bienveillance, c'est l'énergie, tout ça.
On l'entend beaucoup.
On l'entend trop, ce mot, mais en tout cas, je voulais vraiment leur faire passer, leur dire, voilà, maintenant, vous allez tous devenir des managers. Beaucoup sont devenus des entrepreneurs, donc ça aussi, j'en suis très fier.
C'est chouette, ouais.
Il y a énormément de collaborateurs d'Ametix qui ont monté des boîtes, et elles sont, pour la plupart, voire j'ai même envie de dire... toute successful. Donc ça, je suis hyper fier d'avoir transmis cette envie d'entreprendre à nos collaborateurs. Et donc voilà, c'était un moment ultra émouvant. Et j'étais aussi triste. Hein. J'étais triste. J'ai fait une petite semaine un peu de mini déprime. J'étais pas au top. Hein.
on va revenir sur l'après. Il y a une question que d'ailleurs, c'est souvent toi qui la pose, Renaud, mais qu'on aime bien, c'est... le moment où tu claques la porte derrière toi.
Ah ouais, non, j'ai eu. Alors, je sais pas, j'avais écrit un petit mot. J'avais écrit parce qu'on avait un énorme tableau Velleda dans le couloir et j'avais écrit un petit mot comme ça, sympa. J'aurais mis dès que vous lirez ce message, ça vous portera bonheur et vous ferez des ventes pour leur donner un petit peu d'énergie pour qu'ils fassent des ventes. Je sais pas, j'avais écrit ça avant de partir. Et puis non, j'ai pris l'ascenseur. Ouais, j'étais triste. Hein, j'étais triste. Et je me suis dit, ça y est, c'est une page qui se tourne. Après, elle se tourne bien. Hein. Vaut mieux quitter quand t'as vendu que quitter quand ça a planté. Donc j'étais
plus facile.
Et puis j'étais rassuré parce que je savais que Patrick allait tenir. Enfin, c'est un entrepreneur extraordinaire et qui est d'ailleurs un de mes meilleurs amis. On est ultra proches. Même, enfin, par exemple, j'étais très triste de quitter Patrick parce que on est très proches. Mais finalement, je crois que depuis que j'ai franchi cette porte, c'était un ascenseur. En fait, depuis que j'ai pris cet ascenseur, on s'appelle tous les jours. Il y a jamais une journée, je crois, depuis 4 ans où on s'est pas appelé. On s'envoie des WhatsApp. On est tout le temps en contact. Donc du coup, en fait. Tu te rends compte que t'as l'impression que c'est totalement terminé, mais je suis en contact avec tout le monde tout le temps. Donc
une aventure comme ça, ça crée des liens qui sont difficiles à mettre en mots.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on a vécu, parce que on voit toujours aussi, et là, je vous ai parlé que des bons côtés, mais il y a eu tellement de galères, il y a eu tellement de moments compliqués, tellement de stress, de pression que
avec
que
les engueulades parfois qui doivent aller avec, des remises en question.
Bien sûr, tout. Il y a eu, on est passé par tellement de, ouais, beaucoup d'épreuves, Mais en tout cas, ouais, ça nous a soudés à vie.
Dans cette émission, on célèbre évidemment la réussite avec cette finalité qui est la revente d'une boîte. Mais c'est effectivement important de rappeler qu'avant d'en arriver là, et d'ailleurs, tu l'as dit, je crois, dès le départ, c'est avant même cette aventure, il y a eu des échecs. Mais même dans une aventure successful, on passe par des moments down, des moments...
Pour moi, être entrepreneur, c'est un métier de galérien. Il n'y a aucun entrepreneur qui n'est pas un champion de la galère et qui ne s'est pas pris énormément de coups. Moi, parfois, en fait, ce que je disais, souvent quand j'arrive le matin au bureau, c'est que je me prends des claques, des bisous. Donc, j'ai une bonne nouvelle, je suis super content, on a gagné un énorme contrat. Et après, il y a lui qui démissionne. Et après, tu te prends une super bonne nouvelle. Et après, tu as lui qui ne renouvelle pas un contrat. Et tu te prends une super nouvelle. Et après, tu ne sais pas où est un collaborateur, on ne le trouve pas. Il faut le trouver. Et donc, tu vois, c'est que des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles toute la journée.
Alors, donc, le SN particulièrement.
Exactement. Et donc, moi, ma philosophie dans tout ça, c'est que quand t'as une bonne nouvelle, quand t'as une victoire, t'as le droit d'être content 5 minutes, parce que bah, t'as des entrepreneurs, ils signent un gros contrat et pendant une semaine ils foutent plus rien, ils sont « ouais, j'ai gagné ce gros contrat » et tout. Et inversement, quand t'as une mauvaise nouvelle, je me mets dans une salle de réunion, pendant 5 minutes je crie, je suis dégoûté et tout, je sors de la salle de réunion et c'est terminé, parce que parfois t'as des mecs, ils ont une mauvaise nouvelle et pendant un mois ils sont down. J'ai déjà des commerciaux, parce qu'ils ont raté un gros deal, ils devaient le faire, ils l'ont pas eu, et pendant un mois ils ont plus d'énergie et tout. Je dis « t'as le droit, va dans la salle, pendant 5 minutes vraiment t'as le droit d'être vraiment pas content, et tu sors de cette salle, tu penses plus du tout à ce qui s'est passé, et maintenant on pense qu'à l'avenir.
Besoin d'un peu de stoïcisme.
Voilà.
Et beaucoup de résilience.
Exactement.
Quand on aborde cette vie d'après, Vincent, il y a 10 000 questions qui se posent pour l'entrepreneur. Et parmi ces questions, il y en a une que notre partenaire va sûrement te poser. Nadia Cherghi. Bonjour déjà.
Bonjour.
Tu es gérante de fortune chez Neuflis OBC.
Oui, absolument.
Je crois que vous connaissez bien d'ailleurs.
On se connaît.
On se connaît.
Et tu as une question pour Vincent.
Vincent, tu as vécu le succès de la session d'Abetix, l'occasion de penser un peu plus à toi, je suppose. Quel conseil donnerais-tu pour préparer cette étape patrimonialement ?
Alors, j'ai pas eu beaucoup de temps pour penser à moi parce que j'ai vraiment enchaîné. Donc, dès que j'ai quitté Ametix, je me suis pris un week-end de repos et puis ensuite j'ai lancé. Je me suis associé avec le fonds Montefiore pour lancer European Digital Group. Et d'un point de vue patrimonial, c'est vrai que ce que je me suis dit, c'est que quand on vend sa société et qu'on, comme le titre de l'émission, on cash out, on n'est pas prêt techniquement, on n'est pas formé en gestion de patrimoine. Et donc, il faut très rapidement monter en compétences, devenir un expert en gestion de patrimoine. Il y a des masters spécialisés pour bien comprendre toutes ces problématiques.
Mais donc, ça se faisait pendant un week-end.
Ça se faisait pendant un week-end. Et non, moi, ce que j'ai fait déjà pour monter en compétences, c'est que j'ai rencontré beaucoup de prestataires, des family office, des banques. Puis j'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu la gentillesse de partager avec moi. Je leur dis, alors, qu'est-ce que tu as fait avec ton cash out? Et donc, après, on voit qu'il y a plusieurs profils de risques. Il y a ceux qui veulent prendre des risques plus modérés, être plus agressifs. Moi déjà, sans rentrer dans les détails, j'ai déjà réinvesti beaucoup d'argent dans mon nouveau projet, donc je me suis commit dans le nouveau projet, donc j'ai dû réinvestir à peu près 15% de mon patrimoine dans mon nouveau projet, et ensuite j'ai essayé de diversifier au maximum, et donc voilà, ma stratégie ça a été de beaucoup échanger avec des personnes qui étaient déjà passées par là, et puis après c'est vrai qu'en rencontrant aussi beaucoup de banquiers, ils nous proposent plein de choses, et donc après ça nous permet d'arbitrer.
Alors justement, poursuivons sur cette nouvelle vie qui s'offre à toi. Alors, tu l'as dit, un moment forcément émotionnel avec de la tristesse, mais aussi, du coup, mille chemins qui peuvent s'offrir à l'entrepreneur qui quitte cette aventure. Pour parler de ce moment, donc les jours et la vie finalement d'après, tu as choisi le blues du businessman.
J'ai du succès dans mes affaires.
C'est vrai.
J'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première.
C'est un chamboulement de mille émotions.
Ah, c'est vrai. Alors, cette chanson, c'est parce que c'est vrai que j'aurais vraiment voulu être un artiste. Et j'ai essayé maintenant dans ma nouvelle société, European Digital Group, dans ce groupe qu'on monte, qui a une petite dimension artistique.
Ouais, t'as c'est un show dont on me parle souvent. Hein.
Voilà, donc on a lancé le Tech Show. On fait plus de 300 000 vues par épisode, donc on est très fiers. Et donc, on a monté un Tech Show à l'américaine qui interview des personnalités du monde du digital. Et donc, ouais, vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, qui est une petite partie artistique dans mon nouveau projet. Et on s'éclate à le faire.
Ton nouveau projet, on va en parler. À quel moment naît European Digital Group? Tu y penses déjà avant de quitter Ametix et le groupe de Capost? C'est quelque chose que tu avais peut-être même envie de faire avant, mais tu n'avais pas le temps pour le faire? Ou à un moment, c'est une opportunité? Tu parlais de cette phase de la semaine d'après, où finalement, c'était un peu... Enfin, pas loin du canapé, beaucoup en parlent. Comment tout ça arrive? Parce que t'as pas attendu très longtemps non plus avant de te relancer.
Non, c'est quelques mois avant les 2 ans d'accompagnement où je déjeune avec le président du fonds Montefiore qui, comme je te l'ai dit, était déjà intéressé par Ametix. Ça s'était pas fait. On était restés en super bonne relation. Et puis en échangeant, en brainstormant lors d'un déjeuner, est née l'idée d'European Digital Group avec l'objectif de monter un groupe et d'avoir des ultra spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale, le digital marketing, la com et l'IT, pour monter voilà un leader du secteur. Et donc on a échangé comme ça, on s'est revus plusieurs fois et puis on a décidé de lancer ce projet. J'ai investi pas mal d'argent dans ce projet.
15%
de... Voilà, une partie quand même importante de ce que j'avais de ce que j'avais comme on dit dans l'émission cash outé. Et puis on s'est lancé, ils m'ont fait confiance, ils ont misé beaucoup sur moi
et aujourd'hui
ça fait 2 ans et 2 ans après on fait plus de 120 millions de chiffre d'affaires, la moyenne de croissance de nos sociétés est plus de 50% et donc on est ravis de l'aventure.
Félicitations. Tu nous as pas parlé de ta première folie s'il y en a eu après ton cash out.
Ouais, c'est vrai que la première année, on dépense un peu plus qu'avant. Et puis après, on revient à la réalité et on se dit que
t'as changé de stylo.
J'ai complété ma collection de stylos, ça c'est sûr, parce que vraiment très vraiment passionné. Non, il y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Pas mal de dons. C'est important aussi quand on vit quelque chose comme ça, voilà, de partager, de redonner, c'est quelque chose qui est important. Et après, des choses classiques, hein, une belle résidence principale, après, et puis des investissements. J'investis pas mal dans les startups, donc ça, c'est pas un don, mais c'est quand même, moi, je trouve ça important aussi.
C'est une prise de risque, de redonner aussi. Enfin, toi-même, t'as été entrepreneur avec des gens qui t'ont fait confiance.
J'ai une trentaine de participations dans des startups.
Pas toutes liées à European Digital Group.
Non,
en dehors de
European Digital Group, c'est 10 sociétés, mais qui sont quand même déjà établies. Hein. Moi, j'ai investi en parallèle,
en
early stage, des startups en seed, donc voilà, une petite trentaine.
Quels sont tes critères d'investissement, justement, en early stage?
En early stage, alors j'avoue que j'ai beaucoup investi de 2017 à 2019, donc quand j'étais encore chez DocaPost. Depuis que j'ai monté Open Digital Group, j'ai pas réinvesti. Mais après, j'ai énormément de critères. Mais je pense que le critère numéro 1, c'est l'entrepreneur, parce que surtout dans les startups, si on évalue uniquement le projet, comme ils vont pivoter 5 fois, donc à la fin, ça n'a rien à voir avec l'idée de départ. Donc moi, je regarde est-ce qu'il y a une équipe complémentaire, est-ce que il y a de l'énergie. Est-ce qu'on a, je pense, 80% c'est le fondateur, on va dire 1% l'idée, mais après il va falloir voir comment ils vont exécuter. Je regarde le marché, je regarde le track record, je regarde tout ça, et puis après encore une fois, je vais revenir, hein, c'est mon instinct. Est-ce que je sens ou pas ce business, ou est-ce que je le sens pas?
T'as dit combien? Une trentaine de participations.
Exactement, ouais.
Donc on est quelques années après. On dit souvent qu'il y en a 1 sur 10 qui réussit et qui finalement compense les autres. C'est tes stats, t'es un peu au-dessus, c'est trop tôt pour le dire.
Non, j'ai pas de startups qui ont planté encore, donc elles sont toutes en vie. J'ai déjà des sorties.
Ce qui est déjà un truc en soi.
Voilà, ce qui est déjà cool. Et elles sont... Non, ça va plutôt bien. Maintenant, j'ai pas là une nouvelle sortie dans les... Si, peut-être une, mais dans très prochainement. Après, j'ai fait des sorties dans épicerie, Donc qui a été revendu au groupe La Poste, ce qui veut dire que j'ai vendu deux fois au groupe La Poste. Donc,
avec Elsa Hermal.
Exactement, Elsa et Edouard.
Oui.
Donc j'ai fait super aventure que j'ai suivi. Moi je suis aussi dans Side Capital, donc on avait investi dans Regained qui a été vendu à une GAFAM, mais je crois qu'on n'a pas le droit de dire laquelle, mais en tout cas qui a été vendu à une GAFAM et donc qui a fait aussi qui a cartonné, mais ça c'était via Side. Et voilà, et là il y a plusieurs process qui sont en cours, mais après je sais pas, les startups, quand j'investis, je me dis d'abord, c'est pour monter en compétences, pour apprendre dans ce business. Et après, si en plus, il y a une sortie,
ça marche,
c'est bien.
Tant mieux.
Voilà. Mais on sait que quand on investit dans une startup, on n'a pas une chance sur deux de récupérer son argent.
Est-ce que t'as vécu ce moment de la cession, maintenant tu rachètes? Est-ce que, typiquement, c'est un sujet que t'as déjà en tête potentiellement pour European Digital Group?
Non. Non, franchement, quand on a vendu, déjà, il y avait un earn-out, donc je me suis vraiment focus sur ça. Et justement, moi, je distingue toujours la diversification de la dispersion. Faire un peu d'investissement startup, un peu de patrimonial, on se diversifie un peu, rien de grave. Mais par contre, quand on a un objectif, il faut se focus à 100%, être à 1000%. Là, aujourd'hui, je suis à 1000% sur European Digital Group et on peut me proposer les plus beaux projets, tout ça. Ça va me disperser et moi, je veux mettre toute mon énergie toujours sur un projet à la fois. Et souvent, je vois des entrepreneurs qui pensent qu'en se lançant sur 5 projets en même temps, ils ont plus de chances de réussir. Et en fait, ils ont beaucoup moins de chances de réussir en se dispersant parce qu'ils ont beaucoup de chances de planter les 5 projets. Donc, moi, je dis, il faut être focus. C'est déjà dur de réussir une boîte. Moi, là où j'ai la pression, c'est que quand on a réussi une fois, faire la doublette et refaire un succès derrière, c'est pas parce que ça a marché une fois que ça remarchera à chaque fois, sinon ce serait trop facile. Et donc là, quand j'ai relancé European Digital Group, je suis dans un état d'esprit, dans un mindset, comme si j'avais rien fait avant, je repars de zéro, j'ai la boule au ventre, le trac et tout le retour d'énergie.
Ça en prend le chemin, en tout cas, du succès.
On verra.
Les chiffres sont bons, quoi.
Il y a deux semaines, on recevait Céline Lazorte de Litchi.
On était ensemble à l'incubateur HEC.
D'accord.
Donc, on a débuté ensemble.
Et elle nous disait, je m'étais promis après la revente que jamais je replongerais dans l'entrepreneuriat.
Moi, je m'étais promis l'inverse. Moi, je suis passionné et peu importe le montant, tout ça. Moi, je suis avant tout un compétiteur. J'adore ce que je fais. Ça fait toujours plaisir de gagner de l'argent, mais c'est pas mon moteur principal. Mon moteur principal, c'est cet esprit de compète, de créer quelque chose de gros. Là, sur European Digital Group, on est 1200 aujourd'hui. Sur les 1200, il y a 80 associés, puisque nous, on associe tous les entrepreneurs
au groupe qui nous
rejoignent.
Avec des vraies synergies de fait.
Exactement. Et on est tous actionnaires les uns des autres dans ce groupe. Et mon compelling purpose, en fait, ce qui m'anime, ce qui me donne de l'énergie, c'est que je me dis, on est 80, et si on fait un carton, bah, on est 80 familles qui vont profiter de tout ça, et c'est ça, moi, qui m'anime.
Tu parles de 80 familles, c'est une famille, du coup.
Alors, on est une famille, et après,
avec toutes les
exactement,
familles
et après tout ça, et donc je me dis que ce qui serait formidable, c'est mon rêve, c'est d'imaginer le jour où on aura fait, je sais pas, une intro en bourse ou une belle opération,
ça, c'est
la
le
soirée
petit challenge
qu'on va faire.
Que t'aimerais,
non, pas obligatoirement.
Pas
franchement, tout est possible. Moi, pour l'instant, c'est étape par étape. Là, en tout cas, on n'est pas du tout ouvert aux opportunités. On se concentre que sur continuer cette hyper-croissance, les synergies et s'éclater.
C'est un bon projet.
Super beau projet.
Merci Vincent. Pour nous quitter, on va finir en musique avec une musique que tu as choisie pour nous parler de la fiesta, de la pré-session. Et tu as donc choisi, on l'écoute... Et tu as donc choisi une musique sur laquelle tous les auditeurs, derrière leurs oreillettes ou leurs enceintes, devraient à minima hocher la tête, voire sauter sur place. On saute pas dans le studio, s'il te plaît. C'est important de fêter.
De célébrer les victoires,
ouais.
Et surtout de les partager avec ses équipes.
Ça, c'est une bonne musique pour ambiancer tout le monde.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est une grosse vente, ça.
Vous avez fait la teuf tous ensemble après ?
Ouais, toujours.
Tu veux pas en dire plus ? Grosse forme.
Ça reste confidentiel.
Tout ce qui se passe dans les soirées reste dans les soirées.
Et ce qui se passe sur Cash Out est évidemment par contre à partager au plus grand nombre. C'est peut-être le podcast que tout entrepreneur devrait entendre et écouter avant peut-être une offre de rachat. Le mot de la fin est pour toi.
Je souhaite le meilleur à tous les entrepreneurs. Croyez en vos rêves, je vous communique toute mon énergie et je pense que le meilleur reste à venir.
Merci Vincent.
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump off that sofa. Let's kick it off.